Laudetur Jesus Christus.
Le pape François s'est bien reposé cette nuit, communique à l'instant le Vatican. Hier soir, des centaines de fidèles se sont réunis place Saint-Pierre pour réciter le chapelet et prier pour son rétablissement. Reportage en début de ce journal. À Washington, Emmanuel Macron et Donald Trump assurent vouloir travailler ensemble à la paix en Ukraine, alors que l'Europe craint d'être marginalisée des pourparlers directs entre Moscou et Washington. Nous ferons le point avec notre correspondant aux États-Unis. Le gouvernement français met la pression sur Alger deux jours après l'attentat commis à Mulhouse par un ressortissant algérien expulsé à plusieurs reprises du territoire français. Et puis à Damas se tient une conférence de dialogue national organisée par la coalition islamiste au pouvoir depuis la chute de Bachar al-Assad, qui promet la mise en place d'un gouvernement représentant tout le peuple syrien. Mais les inquiétudes restent vives au sein des communautés chrétiennes. Nous serons avec l'archevêque syrien catholique de Homs dans notre dossier en fin de journal.
Radio Vatican, le journal. Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Nouvelle nuit de repos pour le pape François. Le dernier bulletin de santé hier soir faisait état d'une légère amélioration des conditions cliniques du Saint-Père, qui n'a pas fait de nouvelles crises respiratoires et poursuit son traitement. La place Saint-Pierre était hier soir en prière pour la santé du pape. Des centaines de fidèles se sont réunis pour réciter le chapelet et demander le rétablissement de François. Tous les soirs à 21h désormais, un temps de prière aura lieu à l'intention du Saint-Père. Le reportage d'Olivier Bonnel.
C'est une place où d'ordinaire le pape bénit la foule que les fidèles sont venus faire monter leurs prières pour lui. Des centaines de personnes, religieux ou laïques, mais aussi une trentaine de cardinaux résidant à Rome et des membres de la curie. Dans son introduction, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a demandé à Dieu ses prières pour que François recouvre la santé.
Cari fratelli e sorelle,
chers frères et sœurs, les Actes des Apôtres racontent que l'Église priait intensément alors que Pierre était détenu en prison. Depuis 2000 ans, le peuple chrétien prie pour le pape quand il est en danger ou malade. Ces jours-ci également, depuis que le Saint-Père François a été admis à l'hôpital Gemelli, une prière intense s'élève pour lui auprès du Seigneur.
Certains sont venus avec des bougies, d'autres des drapeaux de leur pays. Un moment de recueillement qui était nécessaire pour se sentir unis autour du Saint-Père, explique sœur Félicia, carmélite polonaise de l'Enfant Jésus.
Il est responsable de notre église et je pense que dans cette situation, quand il est vraiment malade, c'est très bien d'être soutenu par la prière. On ne peut pas aller le visiter à l'hôpital, mais on peut venir ici pour la prière.
Sur le parvis de la basilique, une image de l'icône de Marie, Salus Infirmorum, salut des malades, avait été placée. Car au-delà de la santé du souverain pontife, c'est vers tous les malades, en communion avec l'évêque de Rome, qu'est montée cette prière.
Un reportage signé Olivier Bonnel et le communiqué de la salle de presse confirme également que le pape François a repris ses activités professionnelles hier après-midi. Il a notamment échangé par téléphone avec le curé de la paroisse de Gaza pour témoigner de sa solidarité et de sa proximité comme à son habitude depuis le début du conflit. À la une de l'actualité internationale, l'espoir d'une sortie de crise en Ukraine alors que le pays est entré hier dans sa quatrième année de guerre contre la Russie. Dans un entretien télévisé hier, Vladimir Poutine a affirmé que les Européens ainsi que d'autres pays auraient le droit et la possibilité de participer aux négociations. Annonce faite une semaine après la tenue de pourparlers strictement russo-américains à Riyad. Le président français Emmanuel Macron était à Washington hier pour tenter d'infléchir la position du président américain. Depuis son élection, Donald Trump multiplie les invectives envers Volodymyr Zelensky, allant jusqu'à attribuer au président ukrainien la responsabilité du conflit. Mais à l'issue de cette rencontre franco-américaine, Donald Trump a déclaré que le président Zelensky pourrait être reçu à la Maison-Blanche dans les prochaines semaines. La correspondance d'Edouard Maille.
Les deux dirigeants ont annoncé des avancées dans les discussions pour un accord de paix. Malgré leur affabilité, la rencontre a aussi mis en avant les divisions des deux pays. Donald Trump a réitéré sa volonté de récupérer l'argent américain envoyé à l'Ukraine, notamment en réclamant des terres rares, des minéraux sur le sol ukrainien.
Comme les Européens, je crois que ceux qui payent leurs impôts et les États-Unis méritent de rémunérer la somme colossale d'argent qu'on a envoyé. On doit trouver un accord avec l'Ukraine sur les minéraux et les terres rares et d'autres choses.
De son côté, Emmanuel Macron souhaite que Moscou compense Kiev. Le président français a insisté pour préserver la souveraineté de l'Ukraine avec des accords de paix durables et l'envoi de forces militaires de pays européens.
La France a travaillé avec le Royaume-Uni ces dernières semaines pour dire nous on est prêt à contribuer. Et donc on a eu un plan qui a été discuté entre nos entités militaires pour dire nous on est prêt, pas d'aller sur le front, pas aller dans des territoires contestés ou occupés, mais à marquer notre soutien pour nous assurer que la paix telle que négociée et signée par les deux parties est bien préservée.
Mais il n'a pas été précisé quelles seraient les conditions d'un accord pour les territoires ukrainiens conquis par la Russie. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Et en attendant, sur le terrain, la guerre se poursuit. L'ensemble du territoire ukrainien est à nouveau placé en état d'alerte aérienne ce mardi. Et des missiles de croisière se dirigeaient ce matin vers Kiev. Selon les autorités, tous les civils sont invités à rester dans les abris jusqu'à la fin de l'alerte. En France, le gouvernement s'apprête à tenir ce mercredi un conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Ce conseil était prévu de longue date, mais il prend un relief particulier. Quelques jours après un attentat islamiste au couteau qui a fait un mort et plusieurs blessés à Mulhouse, une ville située dans l'est de la France. L'attentat intervient dans un contexte de tension accrue entre la France et l'Algérie, le pays d'origine du terroriste. Un immigré illégal déjà condamné et fiché pour apologie du terrorisme que Paris voulait reconduire en Algérie avant l'attentat, mais dont Alger avait refusé le retour par 10 fois. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
François Bayrou, le Premier ministre français, qualifie d'inacceptable le fait que l'Algérie ait refusé 10 fois de reprendre son ressortissant qui, samedi, a attaqué des passants et des policiers au cri de « Allah est le plus grand ». Le chef du gouvernement entend montrer la détermination de la France qui pourrait adopter des mesures de rétorsion contre l'Algérie. Le gouvernement français est quant à lui sous pression de la classe politique. Le Rassemblement national de Marine Le Pen réclame ainsi la fin des visas et du suivi médical en France pour les dirigeants algériens au Parti socialiste. L'ancien président François Hollande prône pour sa part ce qu'il appelle un dialogue ferme avec l'Algérie et M. Hollande d'ajouter, je cite, « ça ne peut pas durer, ce qu'il faut c'est expulser ». Au sein même du parti du président Emmanuel Macron, des voix s'élèvent pour demander des mesures similaires. Tendues depuis des années, les relations entre la France et l'Algérie se sont encore détériorées depuis l'été dernier quand le président Macron a appuyé le Maroc dans sa revendication du Sahara occidental, un appui que la France va réitérer aujourd'hui avec la visite dans ce territoire du président du Sénat Gérard Larcher. De son côté, l'Algérie a incarcéré sans procès l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, tandis que les autorités françaises ont arrêté plusieurs influenceurs algériens pour apologie de la violence. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
Au Soudan, le secrétaire général de l'ONU dénonce une escalade du conflit quelques jours après la signature d'une charte par les paramilitaires soudanais et leurs alliés. Charte politique qui entend établir l'autorité d'un gouvernement parallèle dans les zones sous leur contrôle, soit la quasi-totalité de la région occidentale du Darfour et plusieurs pans du sud du pays. Et toujours dans la région, les opposants à l'une des plus féroces dictatures du monde, l'Érythrée, viennent d'ouvrir un bureau en Éthiopie. Ce feu vert a été obtenu dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Les précisions d'Augustine Passy.
Depuis 3 ans, les opposants à la dictature érythréenne tentent de se fédérer au sein du mouvement de la Révolution bleue. La semaine dernière, ces exilés ont franchi un pas supplémentaire en établissant leur bureau à Addis Abeba. La mission première est de soutenir les plus de 179 000 Érythréens réfugiés en Éthiopie. Par exemple, en faisant libérer ceux qui ont été emprisonnés car ils se trouvaient en situation irrégulière. Des cartes d'identité reconnues par les autorités éthiopiennes leur sont également délivrées. L'autre volet consiste à mettre au point une feuille de route pour faire tomber le régime du président Isaias Afwerki, qui gouverne l'Érythrée d'une main de fer depuis son indépendance en 1993. Le service militaire est à durée indéterminée, les arrestations arbitraires, la torture et les disparitions forcées y sont courantes. La connexion Internet est en outre volontairement ralentie pour empêcher toute activité révolutionnaire. Alors les partisans de la Révolution bleue comptent installer des récepteurs Starlink à la frontière. À terme, ces activistes n'excluent pas de prendre les armes. Si le gouvernement éthiopien les a autorisés à ouvrir cette antenne dans la capitale, c'est parce que ses propres relations avec Asmara sont déplorables depuis la fin de la guerre dans la région éthiopienne du Tigré. L'Érythrée a en effet été exclue de l'accord de paix de Pretoria. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Vous Voilà presque 3 mois que le régime syrien de Bachar al-Assad est tombé, 3 mois que le groupe islamiste Ayatollah al-Sham tente de convaincre qu'une nouvelle Syrie intercommunautaire et interconfessionnelle est possible. C'est dans cet objectif que s'est ouverte hier à Damas une conférence de dialogue national censée représenter tous les Syriens. À l'ordre du jour figurent la justice transitionnelle, la nouvelle constitution ou encore l'unité du territoire syrien. La conférence devrait déboucher sur une série de recommandations préparant la mise en place d'une série de réformes. Et dès le 1er mars, un nouveau gouvernement reflétant la diversité du peuple syrien devrait voir le jour. Ces discussions démarrent sous d'heureux auspices. L'UE a annoncé hier lever une partie des sanctions en vigueur depuis 2011 dans les secteurs bancaires ou encore de l'énergie et des transports. Mais malgré plusieurs signes encourageants, la prudence reste de mise au sein des communautés chrétiennes. Monseigneur Jacques Mourad est l'archevêque syrien catholique de Homs. Il témoigne à notre micro de l'incertitude régnante.
Alors, nous tenons encore l'espérance pour le futur de notre pays et de nos peuples. Bien sûr, la période que nous traversons est délicate parce que la Syrie se trouve vraiment dans un état de faiblesse totale et de chaos aussi, surtout au niveau de la sécurité, ce qui met le peuple vraiment en état de préoccupation, de difficultés, de peur, tous les sentiments négatifs, malgré la joie de la libération du régime de Assad, qui a vraiment changé tous les cœurs, qui a rendu de nouveau la force et l'espérance pour le futur.
Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des chrétiens? Vous avez reçu de la part de Ahmed Shara l'ensemble des responsables religieux ont reçu des garanties. Est-ce que vous voyez ces garanties évoluer dans le bon sens aujourd'hui?
Il y a beaucoup des occasions où ils expriment leur engagement et leur désir que nous soyons part de cette nouvelle Syrie. Mais en même temps, concrètement, dans la vie de tous les jours, les choses ne déroulent pas comme les paroles, parce que l'impose de la charia et de tous les lois fanatiques ne donne pas un signe qu'il y a vraiment cet désir d'avoir une Syrie pour tout le monde, mais juste une Syrie pour les fanatiques musulmans.
Est-ce que cette tentative d'imposer la loi islamique a des conséquences directes sur les chrétiens?
Bien sûr. Par exemple, si il impose l'obligation de porter le hijab, ça veut dire que toutes les filles, elles doivent porter le hijab. Et ça, c'est hors de notre logique, de notre habitude, de notre la séparation entre les hommes et les femmes dans les édifices, dans les structures de l'État, dans les bus, les transports publics, ça marche pas. Ils ont déjà imposé ça.
Est-ce que des chrétiens ont été victimes de violences?
Bien sûr, il y avait des chrétiens qui ont été victimes de violences dans certains villages, mais il n'y a aucune comparaison avec les Alaouites, bien sûr.
Vous parleriez d'effets collatéraux, autrement dit, est-ce que c'est dû à des groupes locaux et qui n'ont peut-être pas encore rallié la politique du gouvernement, ou est-ce que c'est le fruit d'une politique gouvernementale qui est en train de s'installer?
Ce n'est pas encore clair, en fait. Je pense qu'il faut de temps encore pour que les choses soient clarifiées. Mais en même temps, comme il n'y a pas vraiment une distinction entre ces groupes et le gouvernement, je ne peux pas séparer la responsabilité du gouvernement de tous ces actes violents, surtout dans notre région de Homs.
Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, Monseigneur Jacques Mourad, archevêque syrien catholique de Homs, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Retour de l'actualité du pape et du Vatican à 13h, heure de Rome. Belle matinée à toutes et à tous en attendant.